Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde féminin. Féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
République démocratique du Congo, le groupe de plaidoyer Voix et Leadership des Femmes a lancé une campagne de sensibilisation pour l'intégration de la parité homme-femme avec clause de contrainte dans la loi électorale. L'article 14 de la Constitution dispose que la femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales et que l'État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans les dites institutions. La loi électorale dispose dans son article 13 que chaque liste électorale est établie en tenant compte de la représentation paritaire homme-femme et de la promotion de la personne vivant avec handicap. Toutefois, la non-réalisation de la parité homme-femme et la non-présence de la personne vivant avec handicap ne sont pas motifs d'irrecevabilité d'une liste. L'Assemblée nationale congolaise compte 13% de femmes députées avec 64 sièges sur 500 et elles sont 21% au Sénat avec 23 sénatrices sur 109 sièges. VLF invite les femmes postulées en nombre aux élections générales de 2023 en République démocratique du Congo. La victoire des footballeuses chinoises début février en finale de la Coupe d'Asie face aux Sud-Coréennes suscite en Chine des appels à l'égalité salariale avec leurs homologues masculins aux performances bien moins flamboyantes. Les campagnes en faveur de l'égalité salariale pour les équipes nationales féminines gagnent du terrain ces dernières années, notamment en Angleterre, au Brésil et en Australie, tandis que les Américaines, quadruples championnes du monde, ont été déboutées de leurs demandes. L'équipe masculine de football de Chine ne s'est qualifiée qu'une seule fois pour une Coupe du Monde en 2002 et occupe la 74e place du classement FIFA. Les Chinoises participent régulièrement au Mondial féminin. Vice-championnes en 1999, elles sont 19e au classement FIFA et ont remporté cette année leur 9e titre de championne d'Asie. Au Brésil, une commerçante de la région de Sao Paulo a posté sur sa boutique de vêtements pour femmes un écriteau interdisant l'entrée aux hommes à cause de leur comportement inapproprié. Il est poliment demandé aux messieurs d'attendre sur le banc en face du magasin afin de préserver l'intimité des dames. Selon Andrea Costa, de nombreux clients jettent des regards déplacés sur les mannequins lors des séances photos. Elle dit aussi que certains tentent de regarder les femmes se changer dans les cabines ou font des commentaires désobligeants sur leurs compagnes. Avant cette mesure, Madame Costa avait aménagé un espace dans lequel elle proposait des boissons et jeux pour tenir les regards indiscrets à distance. Constatant que rien ne changeait, elle a décidé d'interdire l'entrée aux hommes, estimant que les femmes doivent pouvoir se changer et se regarder dans le miroir sans être harcelées.
femme.
L'américaine Barbara Canwright a été la première mathématicienne embauchée par la NASA en 1939, à l'époque où les calculs se faisaient sans ordinateur. En 1942, trois autres femmes ont été ajoutées à l'équipe du laboratoire de propulsion à réaction de l'agence spatiale américaine. Dans les années 50 et 60, l'ingénieure informatique Helen Ling a activement embauché des femmes sans formation, les encourageant à suivre des cours du soir. Aujourd'hui, l'océanographe physicienne camerounaise Babette Christelle Chonang est l'une des nombreuses chercheuses de la NASA. Recrutée récemment, Madame Chonang va étudier les données du nouveau satellite SWOT de mission topographique des eaux de surface et océans. Mohamedou Oumfa lui a posé des questions sur son travail.
Pendant ma thèse, j'ai travaillé sur le satellite SWOT, Surface Water Ocean Topography, qui est le tout premier satellite qui va permettre la mesure de l'océan en deux dimensions et qui est construit par la NASA et l'Agence spatiale française avec la contribution des Canadiens et des Anglais aussi. Donc j'ai travaillé sur ce satellite-là en regardant son impact, sa contribution sur l'analyse et la prévision océanique via la méthode d'assimilation de données, vu que le satellite n'a pas encore été lancé, il sera d'ailleurs lancé cette année, par la grâce de Dieu, on espère bien. Mon travail aujourd'hui à la NASA, ça continue un peu dans la même lancée, qui est toujours de regarder l'apport qu'aura ce satellite sur la petite échelle océanique. Les satellites qui ont existé jusqu'à aujourd'hui ont permis certes de représenter l'océan global, de représenter la surface des océans, mais cependant ils sont limités avec la résolution spatiale, donc on ne peut résoudre que les échelles supérieures à 200 km dans l'océan. Or, c'est en dessous de 200 km que la chose est très intéressante, qu'on a vraiment le transfert d'énergie, dont la question aujourd'hui est de savoir qu'est-ce qui se passe en dessous de 200 km et ce satellite-là va nous permettre en quelque sorte de répondre sur.
À terme, qu'est-ce que le fruit de votre travail peut apporter à la société en général et quelles solutions espère apporter la NASA contre le changement climatique qui menace l'humanité?
Si on comprend mieux la surface des océans, plus notre environnement aussi est compris et est maîtrisé. Ce que nous faisons aujourd'hui en tant que scientifiques, c'est de pouvoir donner aux décideurs, donner aux populations des indicateurs de changement climatique, des paramètres clés qui permettent de dire, ok, le changement climatique est en train de s'aggraver et c'est maintenant autour de nos décideurs, autour des entreprises, autour de la population de chacun à son niveau, de travailler pour que ce changement climatique puisse s'arrêter ou encore puisse ne plus progresser. Donc ça passe par la limitation des rejets de CO2 dans l'espace, la limitation de l'utilisation des pesticides pour l'agriculture, parce que c'est vrai, c'est sur le sol, mais les pluies font que cela retourne jusqu'à l'océan et affecte le milieu marin. Ça passe aussi par le fait de ne plus jeter les objets plastiques, que ce soit sur la terre ou encore dans l'océan, et d'utiliser les matériaux recyclables, parce que je le redis encore, on dépend tous de l'océan pour la nourriture, le transport et la vie. Si notre océan se porte bien, nous, on se portera mieux.
Vous êtes maintenant un modèle de réussite pour de nombreux jeunes au Cameroun et en Afrique qui aimeraient avoir un parcours similaire. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, leur donner comme conseil?
À la jeunesse de mon Afrique, du Cameroun que j'aime tant, je vous conseille juste de fréquenter, aimez vos études. N'écoutez pas ces personnes-là sur les réseaux sociaux qui vous disent en longueur de journée, on n'a pas besoin de fréquenter pour être milliardaire. La question n'est pas d'être juste milliardaire, mais c'est l'impact que vous voulez apporter, c'est ce que vous voulez laisser comme histoire après que vous soyez parti. Nous tous, nous parlons de Einstein aujourd'hui, pas parce qu'il a laissé une tour Eiffel ou bien parce qu'il a laissé une maison en or, mais juste pour son impact, l'impact de son savoir sur l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit. Concentrez-vous, limitez les réseaux sociaux vraiment, parce qu'il y a des personnes en longueur de journée qui vous font miroiter une vie qui n'est que fictive, qui n'est pas réelle. Concentrez-vous et ne vous limitez pas à vos difficultés, à la souffrance que vous pouvez rencontrer maintenant, aux problèmes, aux challenges que vous pouvez avoir. Non, ne vous limitez pas à cela. Regardez plus loin. Moi qui vous parle aujourd'hui, le monde me dit félicitations. Ah non, c'est bien. Oh, cette femme, je vais être comme elle. Non, ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est que la face visible du iceberg. Mais au fond, la masse, il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire de galère. Il y a toute une histoire, même de difficulté à avoir la pension pour aller à l'école. Pensez à l'avenir, rêvez grand. Allez vers des personnes qui ont des réponses à vos préoccupations. Posez-leur des questions, faites des recherches. Rêvez grand. Si ce n'est pas la NASA, ça peut être autre chose, toujours grand. Et le plus important dans la vie, c'est de pouvoir être content de ce que l'on apporte, de ce que l'on donne à la société.
Babette Christelle Chonang est océanographe à la NASA, l'agence spatiale américaine.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Au Sénégal, le golf, parfois perçu comme un sport accessible uniquement à l'élite, évolue. La seule femme joueuse professionnelle du pays, Oumi Dieye, redéfinit l'image de ce sport et défie les normes conservatrices de sa culture. On part à sa rencontre à travers un reportage d'Annika Hammerschlag à Sali, relaté par Dili Diko.
Lorsque la golfeuse professionnelle Oumi Dieye a commencé à s'opposer à des hommes, elle se sentait intimidée car ils ne voulaient pas jouer contre elle et ne la prenaient pas au sérieux. Mais quand elle a gagné son premier match, elle a eu confiance en elle-même et a décidé de continuer à faire du golf et de concourir face aux hommes. Aujourd'hui, étant la seule golfeuse professionnelle au Sénégal, elle joue presque exclusivement contre des hommes.
Maintenant, je suis habituée de jouer avec les hommes. Je m'entraîne matin, midi, soir. Je suis à la salle, je fais 3 fois, 4 fois dans la semaine. Donc c'est ça aussi qui me donne plus de confiance.
Oumi Dieye est devenue une professionnelle du golf il y a 7 ans. Elle s'est classée dans des dizaines de compétitions à travers le monde, notamment en Thaïlande, au Kenya et en Afrique du Sud. Ses succès sont particulièrement remarquables au Sénégal, un pays conservateur et musulman où les femmes sont parfois découragées de pratiquer des sports, en particulier au niveau professionnel.
Quand on est musulman, on préfère toujours garder les filles à la maison pour leur trouver un mari et de rester comme femme de maison.
En 2000, la Fédération sénégalaise de golf a accepté d'aider Oumi Dieye à créer une académie de golf en vue des Jeux olympiques de la jeunesse prévus au cours de l'été 2026 à Dakar. Ce seront les premiers Jeux olympiques organisés en Afrique. Le projet a été reporté à cause de la pandémie, mais il devrait redémarrer cette année. La joueuse de golf sera chargée de former la toute première équipe nationale du Sénégal avec un accent particulier sur la préparation de la prochaine génération de golfeuses dont sa fille fait partie.
Les filles en feront partie sur un pied d'égalité avec les garçons. C'est quelque chose que nous sommes prêts et engagés à faire. Oumi a aussi cette vision et s'engage à promouvoir les filles pour leur donner des opportunités et les aider à atteindre de plus haut niveau.
Oumi Dieye dit qu'elle espère trouver un sponsor afin de continuer à concourir au niveau international et former la prochaine génération de golfeuses sénégalaises.
Si je ne pouvais. En Côte d'Ivoire, voir de nombreuses filles qui ont des ambitions sont bloquées par une grossesse survenue en pleine scolarité alors qu'elles sont encore très jeunes. Déscolarisation, rejet de la famille et regard méprisant de la société sont les déboires de ces jeunes filles mères, rapporte notre correspondante à Abidjan, Aïcha Diarra, qui les a rencontrées dans un centre de formation spécialisé.
L'une d'entre elles vient de confectionner son tout premier sac à main. C'est un exploit parce qu'elle est apprentie couturière. Nous sommes au centre Pro Kids qui a décidé d'accompagner la jeune fille mère et célibataire. Aïcha Traoré en est la responsable.
Et notre vision, c'est de créer cette industrie où on a tout. On a des gens qui veulent faire de la checker, on va les accompagner. On veut créer une industrie de femmes fortes qui se sont relevées et qui refusent de se limiter, qui rêvent. On veut réaliser le rêve de ses filles avec elles pour toujours l'objectif que l'enfant puisse avoir un meilleur environnement éducatif.
Elles sont âgées de 14 à 20 ans pour la plupart et chacune a une histoire particulière. Tizier Grassentich a contracté sa grossesse à l'âge de 15 ans quand elle était en classe du 5e. Le père n'a pas voulu reconnaître l'enfant.
Imagine, non, c'est pas possible que parce que chez eux, si les grands n'ont pas encore eu dans les enfants, c'est pas le petit qui va avoir en premier. Donc, on a quand même interrompu la grossesse. Tellement que j'avais peur, mais je ne voulais pas rester seule dans la grossesse. Et j'ai pris toutes sortes de médicaments, en tout cas pour pouvoir interrompre la grossesse, mais ça n'a pas marché. Et à 5 mois, quand j'ai vu que c'était toujours là, j'ai arrêté de prendre et garder la grossesse. Ça m'a pas su au 6e mois.
À 19 ans, Asumo Emira est tombé dans le piège du grand amour qui fait rêver en classe de terminale.
Bon, lui, il m'a fait une proposition que son âge a avancé, il a bien envie d'avoir un enfant, mais bon, ok, on s'est basé sur l'histoire de c'est par amour qu'on va le faire. C'est là que j'ai pris la grossesse. Mais après 4 mois de grossesse, son comportement a commencé à changer. Concernant l'occupation de l'enfant, il ne s'occupe pas.
Malgré leur douleur et souffrance interne, ces jeunes filles n'échappent pas à la pression familiale et sociétale. Goli Loudjesson Blanche en a payé les frais.
On me regardait bizarrement, on me jugeait autrement parce que j'ai arrêté l'école à cause de ça. Le rejet de la famille, bon, ma maman n'a pas apprécié et vu que mon papa n'était plus. Non, en tout cas, j'étais seule. C'est le papa de l'enfant qui m'a motivée à pouvoir garder jusqu'à... S'il n'avait pas été là, je ne sais pas comment ça allait se passer. Parce qu'elle avait perdu même le sens même de la vie.
Souvent seule et sans soutien financier, ces jeunes filles s'adonnent à tout genre de petits boulots afin de subvenir aux besoins de leurs enfants. Asumu Emira.
C'est un moment où mes parents voulaient que je retourne à l'école. Mais elle a dit, mais qui va s'occuper de mon enfant? Je vendais mes petits chichis, des biscuits, après du pain. Je faisais du pain pour quelqu'un, elle me payait. J'en souffrais beaucoup. Je regrettais beaucoup.
Des épreuves de la vie qui font gagner en maturité la plupart d'entre elles. Tatisier Grassentich.
Avoir un enfant même hors mariage, là, c'est pas facile. Mais si c'est pas si la personne va te prendre au sérieux, ou même si c'est pas si la personne ne va pas te prendre au sérieux, souvent, ils vont te dire toutes sortes de choses pour pouvoir rester avec eux. Ils vont t'enseigner, faire tout, s'occuper de l'enfant, et puis arriver à un moment, ils vont te laisser. Ce que je veux dire à mes jeunes soeurs, là, ils n'ont qu'à s'abstenir. C'est la solution. Toi-même, tu cherches ton travail, tu te bats. Le garçon, il va jamais faire mal.
Le centre Pro Kids Twin Mother Up a formé à ce jour plus de 170 filles à Abidjan, Alepé et Yamoussoukro. Aïcha Diarra, Abidjan, pour VOA Afrique.
Entre parenthèses.
Pakistan, un homme qui avait été condamné à la perpétuité en 2019 pour avoir tué sa sœur de 26 ans, populaire sur les réseaux sociaux, a été acquitté en appel par un tribunal de Multan, selon son avocat. Mohamed Wassim avait fièrement reconnu en 2016 avoir étranglé Kandil Balok, de son vrai nom Fozia Azim, pour l'honneur de la famille et d'y n'éprouver aucun état d'âme pour ce crime. Depuis une récente modification de la loi, les parents d'une victime d'un crime dit d'honneur ne peuvent plus pardonner à son assassin, souvent un membre de la famille, ce qui jusqu'alors permettait de soustraire ce dernier à l'action de la justice. Toutefois, le juge peut choisir de ne pas retenir la notion d'honneur parmi les chefs d'accusation, auquel cas le meurtrier peut toujours demander l'absolution. Les parents de Fozia Azim avaient affirmé qu'il n'y aurait pas de pardon pour leur fils avant de se raviser et de lui pardonner. Au Pakistan, des centaines de filles et de femmes sont tuées chaque année par des proches sous prétexte d'honneur familial. Retour au Sénégal où une multitude d'écoles privées de diverses spécialisations ont vu le jour ces dernières années, surtout à Dakar. Toutefois, le manque de rigueur de certaines d'entre elles dans les cours dispensés est pointé du doigt. Malgré cela, des milliers de jeunes diplômés continuent d'être mis sur le marché de l'emploi avec des acquis parfois insuffisants ou des certificats non reconnus par l'État. Un reportage de Sédina Abagay à Dakar.
En fin d'année, plusieurs écoles de formation organisent la cérémonie de remise de diplômes des promotions sortantes, des festivités qui sont souvent suivies de fortes déceptions pour les jeunes diplômés, comme Mam Hassan Gueye.
Bon, à vrai dire, la situation a été courante. Dans la mesure où bon, on ne peut même pas postuler pour certains concours avec nos diplômes qui ne sont pas reconnus. On dirait qu'on jette notre argent à travers une fenêtre. Et ce qui fait le plus mal, les écoles de formation ne nous disent jamais la vérité. Quand on vient pour nous inscrire, car les diplômes ne sont pas reconnus par l'État.
Une situation ubuesque qui oblige les associations de parents d'élèves à se battre pour sensibiliser le public au sujet de ces écoles qui mettent en péril l'avenir des étudiants. Gore Mbaïgué est un parent qui milite activement contre la prolifération des écoles et instituts privés.
La quasi-totalité des écoles ou instituts de formation privés ne sont pas accrédités par le CAMES ni l'ANACSIP. Autrement, les dites structures ne ne connaissent pas une école ou une structure, mais les formations délivrées ou proposées par ces derniers. C'est-à-dire, il faut noter aussi que les titulaires des diplômes de ces écoles ne sont pas reconnus par l'État du Sénégal et l'ensemble des pays membres du CAMES, raison pour laquelle je suggère toujours les futurs étudiants de se renseigner sur la qualité des formations dispensées par les écoles.
Du côté des écoles incriminées, on préfère se murer dans le silence. Sous le couvert de l'anonymat, un professeur donne quand même son point de vue sur la situation qui, dit-il, est imputable aux étudiants. Ces derniers, d'après lui, se contentent des publicités sur les réseaux sociaux au lieu d'aller voir au plus près ce qui est proposé.
Bon, ils ont une paresse intellectuelle démesurée. Vu la venue de nouvelles technologies, ils sont plus concentrés sur les réseaux sociaux. Eux, je dirais, bon, il y a une qualité dans les écoles de formation. Certes, ils sont là juste pour le profit, mais il y a de la qualité. Il y a des écoles d'excellence à Dakar, précisément des écoles catholiques, beaucoup d'écoles, mais je pense que la faute de nos jours doit être reversée ou déversée aux étudiants et aux élèves, je pense, à mon humble avis.
Pour contrôler et réguler la formation dans le supérieur, l'État du Sénégal a mis en place l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Une agence qui, à terme, devrait garantir la mise aux normes des établissements d'enseignement supérieur et ainsi permettre aux apprenants d'être mieux outillés pour faire face au marché du travail. Sédina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
C'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.